إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد ورسوله. أحييكم بتحية الإسلام في بيت من بيوت الله تعالى وفي هذه الليلة المباركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلا زال الحديث معنا وتتمة للحصة السابقة في موضوع هام ومهم ومن أصل من أصول الدين الإسلامي، ألا وهو باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتذكيرا للسامعين والحاضرين، فقد نبهت أن أصل هذه المحاضرة منتقات من بعض كتب أهل العلم كرسالة شيخ الإسلام ابن تيمية في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأيضا قراءة من بعض المسائل من شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لفضيلة معالي الشيخ صالح آل الشيخ حفظ الله تعالى، وأيضا من كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام محمد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولفضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. هذا أصل المحاضرة. أما مواضيع المحاضرة فقد بدأنا فيما مضى وهو الدرس الثاني هذه الليلة إن شاء الله تعالى، ذكرنا وعرفنا مع بعض وقرأنا من كتاب شرح العقيدة الواسطية لمحمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى لتعريف المعروف، وعرفنا أيضا ما هو المنكر، وذكرت أيضا أن هذه الحصص إن شاء الله وهذه الجلسات سنتطرق وسنفصل في شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا عن تعريفه وفضله وغير ذلك. ونبهت أن كثير من المسلمين والحمد لله يعرفون أن هذا الأصل من أصول الدين الإسلامي، ونبهت أيضا لهذا جعله وأدخلوه في العقيدة الإسلامية. ما من متن في العقيدة يا أحبة، ما من متن في العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة إلا وأدخل هذا الباب العظيم لمخالفتهم للفرق الأخرى التي خالفت أهل السنة والجماعة في مفهوم الأمر بالمعروف والمنكر، في شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك من المسائل التي سنتطرقها إن شاء الله تعالى في هذه الجلسات. وتذكيرا توقفنا في الشرط الخامس من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسنكمل الشرط الخامس ثم الشرط السادس وهو النقطة الثانية أو الموضوع الثاني من هذا الباب، وستكون مواضع أخرى متعلقة بهذا الباب العظيم كبيان هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب أو مستحب، وإن كان واجب فهل هو عيني أم كفائي، وسنتطرق أيضا إلى صفات وسمات هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما هي صفاته، هل كل يأمر وينهى بلا قيود وضوابط، سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى. ثم ختاما إن تيسر لنا في هذه الليلة أو الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى من نفس اليوم أي يوم الأربعاء، سنذكر أيضا بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب كبيان ذكر الفرق بين النصيحة وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يخفى على المسلم أنها في فروقات بين النصيحة وبين باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأيضا سنذكر وسنبين عبارة نسمعها كثيرا، عبارة مجملة مهمة لبعض المفاهيم، ألا وهي لا إنكار في مسائل الخلاف. لا إنكار في مسائل الخلاف، إذا أطلقت هذه العبارة ففيها نظر وتحتاج إلى تفصيل. فكل هذه المواضيع سنتطرقها إن شاء الله في هذه الجلسات. فأعيد، بدأنا في النقطة الأولى وعرفنا المعروف والمنكر. الموضوع الثاني الذي بدأناه ولم نكمله في بيان شروطه، وذكرنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط. له شروط. من يذكرنا إن شاء الله تعالى ما هي شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ Donc on disait, on avait commencé cette assise, et qui est la deuxième assise concernant le sujet d'ordonner le bien et interdire le mal. Et on sait bien l'importance de ce pilier, de ce fondement, où les savants l'ont intégré dans leur ouvrage, et en particulier dans la dogme, puis l'aqida. D'où l'importance de ce sujet. Et le fait que Al-Sunnah, quelle est la compréhension de ça, Al-Sunnah, concernant ce fondement qui est très important pour la communauté musulmane. Et j'ai précisé que l'objectif de notre assise concernant ce, le fait qu'on va parler sur ça, c'est pas parler sur sa définition, sa récompense, etc. Ça, la majorité des musulmans, alhamdoulilah, le connaissent. Tout le monde sait que c'est bien d'ordonner le bien, et c'est mal d'interdire, et c'est bien aussi d'interdire le mal. Oui ou pas, Ibrahim? Ça, tout le monde est d'accord. Soit l'ignorant, soit le savant. Il le connaît, c'est alhamdoulilah. Mais la question qui se pose, et c'est là où on doit s'interroger, et c'est d'où l'importance de notre assise, c'est connaître certains sujets qui sont liés à ce fondement. Tout le monde connaît que c'est bien d'ordonner le bien et interdire le mal. Ah, la semaine dernière, on a commencé à traiter. Quelle est la définition du al-ma'ruf? Et on a dit, en résumant, al-ma'ruf, kullu ma amara bihi shara. Tout ce que la législation islamique l'a ordonné. C'est ça le ma'ruf, ou c'est ça le bien. Et vice versa, c'est quoi le mal? Tout ce que la législation islamique l'a interdit. Donc ça, c'est un mal. Donc, définir le bien et définir le mal, il est clair pour tout le monde. D'où le titre ou le sujet de nos assises, c'est ordonner ce bien et interdire ce mal. D'accord. Le titre, il est clair. L'expression, mot à mot, c'est-à-dire la décomposition du sujet, il est clair pour tout le monde. Mais j'ai préféré de parler sur des sujets que d'habitude on n'entend pas. Par exemple, quelles sont les conditions avant d'ordonner ce bien ou interdire le mal? Et on a commencé, on a dit il y a six conditions. Six conditions, ibadallah. Celui qui ne le connaît pas, il n'est pas apte, il n'est pas capable d'ordonner le bien et interdire le mal. La première, on a dit, c'est la science. Al-ilmu. Al-ilmu bima ya'mur wa yanha. Donc la première condition avant d'ordonner le bien et interdire le mal, c'est la science de ce qu'on va ordonner ou ce qu'on va interdire. Si on voit une chose, on doit savoir, on doit avoir la science, est-ce que cette chose, si elle fait partie de la religion, donc on va l'ordonner. On ordonne la personne de faire ça. Pourquoi? Parce que la législation islamique, « Ash-shara ya'muru bihi », la religion nous ordonne à le pratiquer et le faire. Et en contrepartie, aussi, si on voit une personne faire de mal, on doit savoir, on doit avoir la science, est-ce que cette chose est interdite dans la législation islamique? C'est pas quiconque vient nous dire, ça c'est halal, ça c'est haram, ou ça c'est wajib, et ça c'est makruh, ou etc. Donc, la première chose c'est al-ilm. Al-ilm bima ya'mur wa yanha. Al-shart al-thani, la deuxième condition, العلم بحال المأمور. La deuxième chose ou la deuxième condition est de connaître est-ce que cette personne fait partie du mukallaf, c'est-à-dire s'il est pubère ou s'il est doué de raison. Parce que ces gens, les choses ne sont pas obligatoires pour eux. Oui ou pas? Donc on doit savoir s'il est mukallaf ou pas. Si on remarque un garçon par exemple, il n'est pas encore pubère, est-ce qu'on doit l'obliger de pratiquer la prière? Non. L'obligation, je parle. C'est pas de l'éduquer à la faire, non. L'obligation de faire la prière, l'obligation de jeûner Ramadan, l'obligation de faire le hajj, non. Et vice versa, si on voit une personne, il n'est pas prière ou il n'est pas doué de raison, est-ce qu'il fait un mal? Est-ce qu'on doit le blâmer et lui dire que tu as commis un péché? Non. Donc ça c'est la deuxième condition. La troisième condition qui est العلم بحال المأمور حال تكليفه. Le titre, on a l'impression qu'il est dur, mais c'est, il faut savoir est-ce que cette personne a déjà fait cette chose avant d'ordonner ce bien ou interdire le mal. Et on rappelle l'histoire, pourquoi ils se sont basés sur ça. Ils ont tiré que ça c'est la troisième condition d'après le sahabi qui est rentré au prophète sallam, où le prophète sallam faisait la khutbah de Jumu'ah. Il a vu une personne rentrer, qu'est-ce qu'il a demandé? Donc, quand on rentre à la mosquée, qu'est-ce qu'on doit faire à la base? Tahiyyat al-masjid, les deux unités avant de s'asseoir pour la mosquée. Salutation de la mosquée, c'est ça? Les deux unités de salutation. Tahiyyat al-masjid. Donc il est rentré sahabi, ça c'est pendant le Jumu'ah, il était sur le manbar, et on a lu le hadith ensemble. Le sahabi est rentré, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a dit lève-toi, est-ce qu'il a dit, est-ce qu'il a blâmé parce qu'il a délaissé tahiyyat al-masjid? Non. Qala lah asallaita, as-tu fait la prière? Il a demandé est-ce qu'il a déjà fait cette chose ou pas. Ensuite on ordonne un bien ou on interdit un mal. Donc c'est pour ça le shart al-tal. Nabi sallam il a demandé as-tu fait la prière? Asallaita, il a dit non, il a dit qum فَصَلَّ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا. Après que le prophète a su est-ce qu'il a déjà fait ou pas, donc le sahabi a répondu non, j'ai pas encore fait ou j'ai pas fait. Le prophète il a demandé lève-toi et fais deux unités وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا, c'est-à-dire fais-les rapidement. Et c'est pour ça on a dit on doit faire attention, même si le imam, ça c'est en général, ça c'est un jugement de jurisprudence, هذا حكم شرعي فيما يخص إذا كان الإمام ويخطب ودخل المصلي هل يصلي تحية المسجد أم لا؟ من هذا الدليل يجب عليه الظاهر والوجوب. الظاهر من هذا الحديث هو الوجوب. Donc on doit faire attention et on doit faire les deux unités de prière même si l'imam il est sur le manbar selon ce hadith. الشرط الرابع, la quatrième condition avant d'ordonner le bien et interdire le mal, qui est ألا يترتب على الآمر بالمعروف أو النهي عن المنكر ضرر على نفسه. Il faut pas que quand il ordonne ce bien ou il interdit ce mal, ça engendre un mal pour lui-même. سواء قتل أو حبس إلى غير ذلك. Soit par exemple, il craint pour sa vie, ils vont le tuer par exemple, ou un emprisonnement ou autre chose. Donc si, et c'est l'avis de Ahmed ibn Hanbal, dans ça il dit, si ça engendre un darar, il devient plus obligatoire d'ordonner le bien et interdire le mal. Ça c'est, je l'ai fait rapidement parce qu'on l'a déjà fait la semaine dernière. Avant la semaine dernière à fond. La cinquième condition, on s'arrêtait là, et j'ai dit, c'est la plus importante. الشرط الخامس هو من أعظم هذه الشروط. وَكَمْ تَخْفَى عَنَّا. Parce que les quatre premiers shurut, ils sont faciles. Oui ou pas Ibrahim? L'ilm. Tu dois savoir est-ce que ça fait partie du din ou pas. Deux. حَلَ الْمَعْمُورِ. Trois. حَلَ الْمَعْمُورِ. حَلَ تَكْلِفِ. Quatrième. الظَّرَر. Donc tu sais que si tu en donnes ce bien ou tu as donné un mal, tu sais est-ce que ça va engendrer du mal ou des dégâts pour ta vie ou pour autre chose. Donc on peut le savoir. الشرط الخامس, et c'est le plus important, et sur lequel, même si on consacre une assise complète, ou même plusieurs assises, on n'aura pas le temps pour terminer, à expliquer en détail cette condition, qui est la cinquième condition, d'ordonner le bien et interdire le mal. Donc, à chaque al-khamis, comme d'habitude, je fais une lecture de ce chapitre, je précise, ce chapitre, et qui est un fondement parmi les fondements de la foi d'un musulman, on trouve dans les livres du dogme, de l'aqidah, et j'ai choisi parmi les livres, parce que presque tous les livres on les trouve, soit dans les livres de l'Hanafiya, soit dans les livres de l'Hanabila, soit du Malikiya, soit du Shafi'iya. Il n'y a pas de divergence sur ça. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين. أصل من أصول الدين. Et c'est pour ça, il y a certains auteurs, il y a une explication de certains hadiths qui dit que le Coran, il est décomposé en trois choses. Le Coran, il est décomposé en trois choses, et ça, il est indiqué dans le Risala de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, dans l'introduction, quand il dit وهذا كما ذكر في الحديث أن سورة قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن. Donc il parle sur ce sujet et après il dit, comme il est indiqué dans le hadith, donc le verset de la sourate de قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن. Elle vaut ou elle équivaut le tiers du Coran. C'est ça? Elle vaut le tiers du Coran. Mais les deux autres tiers, ça correspond à quoi? Ça correspond, et après il a dit, لِتَغَمُّنِهَا الثُّلُثَ الَّذِي هُوَ التَّوْحِيدِ. Et le Coran, la parole d'Allah, on trouve trois sujets importants dans le Coran. Si on lit le Coran du surat al-Fatiha, je crois qu'on l'a dit à Rabbi Nas, on trouve que le Coran est divisé en trois choses. Où on trouve trois sujets différents. C'est-à-dire tous les sujets, ça ne sort pas parmi ces trois sujets. Les trois sujets. La première qui est Al-Qasas, des histoires. Et bon, c'est vrai, on trouve dans le Coran que des histoires. Soit les histoires des prophètes, soit en particulier les histoires concernant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on trouve beaucoup d'histoires des prophètes. Le deuxième sujet qu'on trouve dans le Coran, At-Tawhid, l'unicité. Toujours on trouve des versets qui parlent sur l'unicité. Et la troisième chose, Al-Amr, l'ordre. L'ordre. Et l'ordre, bien sûr, ordonner le bien et aussi interdire le mal, parce que aussi en lui-même c'est un ordre. Donc vous remarquez, c'est pour ça, ce chapitre ou ce fondement, Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar, il correspond le tiers du Coran. D'où l'importance. Et c'est pour ça, les savants ils l'ont intégré dans leurs ouvrages du dogme, du Al-Aqidah. C'est pour ça que j'ai choisi le petit maître, l'ouvrage de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, qui s'appelle Al-Aqid al-Wasitiyah, à la fin, il consacre, il dit, il parle, et c'est pour ça, Cheikh l'Uthaymiyyah, rahimahullah, il a fait l'explication de l'Aqid al-Wasitiyah, et je suis en train de lire l'explication de ce chapitre. Et on s'est arrêté à la cinquième condition. Donc la cinquième condition, qui dit أن لا يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفسدة أعظم من السكوت. Il ne faut pas que أن لا يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Il ne faut pas que le fait d'ordonner le bien et interdire le mal, ça engendre des dégâts plus que le fait si on ne dit rien. C'est-à-dire, j'ai vu un mal, j'ai vu une personne, il a délaissé un bien, donc je vais l'ordonner. Ou le contraire, j'ai vu qu'il a commis une interdit, donc je vais interdire, dans les deux cas. Donc, si j'essaie moi d'ordonner ce bien ou interdire ce mal, mais par la suite, ça va engendrer des dégâts pires que les premiers. Pire. Là, il ne devient plus obligatoire d'ordonner le bien et interdire le mal. Et le chéri va donner un exemple. Vous vous dites c'est un peu flou, c'est un peu général et en gros, il va donner un exemple. فَإِن تَرَتَّبَ عَلَيْهَا ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ. Donc si ça engendre un mal plus grand que le premier, et après le cheikh il donne un exemple pour vous rapprocher l'idée, et la fin des conditions, il dit une personne, il boit une fume de la cigarette. C'est bien, c'est pas bien. Hein? Comme il a dit, même sur la paquet de cigarettes, il est interdit. Mais on rentre même pas dans la religion. Même il dit que ça tue la santé. Ils le disent, donc c'est pas. On va même pas parler sur Qalallah, Qalallah Rasul. Même eux, ceux qui le construisent, ils le vendent et disent que ça tue la santé. Donc on parle pas sur ça. Donc on sait que c'est haram. Haram parce que, on trouve dans Qur'an et dans Sunna, c'est pas parce qu'ils l'ont dit, hein. On sait que c'est haram. Mais, donc je sais qu'une personne, il commet une chose interdite. Le fait que si je l'interdis de fumer, je sais qu'il va boire de l'alcool. Et boire de l'alcool, c'est plus gros, c'est plus grave que fumer une cigarette. Oui ou pas ? si on aura une certitude, on va parler sur ça, si on aura une certitude, hein, c'est pas dans, tu vas dire peut-être si je l'interdis, il va. Non, si on aura une certitude que le fait de interdire le premier mal, il va engendrer un autre mal plus grave que le premier, c'est mieux de le laisser dans le premier mal que le basculer sur un autre mal plus grave que le premier. Et ça, qui connaît et qui aura la sagesse de penser à ça et avoir pensé à tout ça. Parce que nous, souvent, si on voit un bien, si on voit un mal, ou on voit une personne qui a délaissé un bien, toujours on va le blâmer. Oui ou pas, Ibrahim? Je vous ai dit, on est champion du monde de d'ordonner le bien, on interdit le mal, sans réfléchir. Une personne rentre, il fait une chose, ou un enfant, il court ici, il ne l'énergie. Il est mort, ils l'ont tué. Avec son père, il le tue. Sans demander quel est son état, sans demander est-ce que... Bref, beaucoup de choses. Je ne dis pas que tout le monde ramasse ses enfants, non. Je ne crois pas sur ça. Je suis contre que les parents qui ramènent leurs enfants, ils les laissent jouer, sans les mettre à côté d'eux, sans les éduquer, etc. Je parle en général. Et vous connaissez bien l'histoire du prophète, quand l'arabe est venu, et qu'est-ce qu'il a fait dans la mosquée, Ibrahim? Il a uriné. Ah, imaginez-nous, une personne rentre à la mosquée et urine. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Qu'est-ce qu'on va lui faire? Hein? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, on va le tuer, miskin. Ah oui, il y a pire que ça, c'est une insulte. Mais j'espère que c'est pire que ça. Mais malheureusement, pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas ces conditions. Nous, on pense qu'on voit un mal, il faut le changer. Nous, c'est ça, on est programmé comme ça. Tu vois un mal, il faut changer. On est éduqué comme ça, Allah al-Musta'an. On n'a jamais lu les conditions. On n'a jamais vu les degrés. Et là, on va les traiter. On n'a jamais vu autre chose. On sait que ça, c'est bien d'ordonner le bien. Et aussi, c'est bien d'interdire le mal. Ah, directement, on pense. Non. Il faut avoir ces conditions déjà. Donc, la cinquième condition. Et c'est pour ça que les savants ils disent, écoutez très bien, c'est une parole très importante, et même Ibn Qayyim, rahimahullah, il l'indique dans son ouvrage I'lam al-Muwaqqi'in, c'est un livre, c'est de l'or, I'lam al-Muwaqqi'in. Et même Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, il le rappelle dans le Sharh al-Aqil al-Wasita, il dit « وَلِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاءِ إِنَّ إِنْكَارَ الْمُنْكَرِ يَنْتُجُ مِنُّ إِحْدَى أَحْوَالٍ أَرْبَعَ » Écoutez très bien. Le fait d'interdire, d'ordonner le bien ou interdire le mal, c'est en 4 degrés. Qui connaît ces 4 degrés? Aïe, Fouad, Issa, Ibrahim, Had, Amir. Les 4 degrés de l'Amr bin Ma'ruf et Nahy Munkar. Aïe. Ils disent, وَلِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاءِ. Et c'est pour cela que les savants ont dit, إن إنكار المنكر ينتج منه إحدى أحوال الأربعة. Le fait d'ordonner le bien et engendrer le mal, ça engendre un de ces quatre cas. D'ordonner le bien et interdire le mal, on sait, c'est bien de le faire. Mais ça engendre un cas parmi les quatre cas. Quels sont ces quatre cas? Il dit إما أن يزول المنكر. Oui ou pas? Le fait d'ordonner le bien ou d'ordonner le mal, ça engendre d'enlever ou de supprimer ce mal. Oui ou pas? Est-ce que c'est clair? Une personne, s'il a délaissé une obligation, supposons une personne, elle a délaissé la prière. Je l'ai ordonné. Il va faire la prière. Donc, le mal, je l'ai supprimé. C'est quoi le mal? Le fait qu'il a délaissé la prière. Donc, on a supprimé le mal. Et le contrat, un autre exemple. Le contrat. Il commet une interdit. Par exemple, il fait du zina, a'adan Allah, ou il mange riba. Et je dis riba haram, etc., etc., il va le délaisser. Donc le fait de le délaisser, donc j'ai supprimé le mal. Oui ou pas? Donc bon, le premier cas, ça annule ou ça supprime le mal. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas. Ah. Parce que nous, toujours, on pense que le fait d'ordonner le bien et interdire le mal, c'est toujours ça annule le mal. Mais non, pas que ça. Il reste 3 autres cas. Le deuxième cas. Ou yatahawwal ila akhaf minhu. Deuxième cas, qu'est-ce qui peut arriver? On peut
engendrer un autre mal, mais moins grave que le premier mal. Oui ou pas? Une personne, yashrab al-khamr. Peut-être le fait que je lui parle sur le khamr, moi c'est clair et net. On va lui dire qu'il arrête définitivement l'alcool. Ça c'est sûr et certain. C'est ça l'objectif qu'on veut. Qui est le premier, c'est izalat al-mankar. An yazoul al-mankar. Mais on peut arriver dans le deuxième cas. Il peut retomber dans un autre mal, mais moins grave. C'est-à-dire de passer de boire l'alcool, il va passer à boire ou fumer du cigarette. Oui ou pas? Donc ça peut engendrer un autre mal, mais moins grave que le premier. Le troisième cas, ça peut engendrer un mal, mais l'équivalent au premier mal. Et le quatrième cas, ça peut engendrer un mal et plus grave que le premier. Vous remarquez les 4 degrés? Donc soit le premier degré. Imma an yazoul. Alhamdulillah. Et les ulama disent que si on aura une certitude, on sait que on va supprimer ou annuler ce mal, donc l'amr bil ma'aruf wa namakar, il devient obligatoire. Il devient obligatoire. Est-ce que c'est clair? Deuxième cas, il se transforme à un autre mal, mais moins grave. Ça aussi, il est obligatoire d'ordonner le bien et interdire le mal. Troisième cas, il se transforme en autre mal, mais équivalent. Les savants se sont divergés. Parce que de passer un autre mal à un mal, les savants se sont divergés. Le quatrième cas, si, écoutez très bien, si ça engendre un mal plus grave que le premier, donc d'ordonner le bien et interdire le mal, il est interdit. لا يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا ترتبت مفسدة أعظم من الأولى. Et ça, je ne sais pas si tout le monde maîtrise ça. Oh là là, tout de suite. Nous, on voit un mal, directement on dit, ah, il faut changer. Mais on ne pose pas la question, est-ce que ça va annuler ou supprimer ce mal? Est-ce que ça va le transformer un autre mal moins grave, ou équivalent, ou plus grave? Et c'est là ce qui nous manque. Et c'est pour ça, des fois, on a, yani, niyya hasan, al-qasd hasan. Notre attention, elle est bonne pour faire ce bien. Mais sans faire attention, parce qu'on manque de science et de vue, le passé là, de connaître qu'est-ce qui peut arriver par la suite, c'est pour ça, des fois, on peut faire des dégâts. Et c'est pour ça, si on cherche bien, pourquoi à votre avis, des fois, les savants ne parlent pas? Est-ce que vous pensez parce qu'ils ne connaissent pas le bien? Est-ce qu'ils ne savent pas que ça c'est un bien, ça c'est un mal? Et beaucoup de gens se trompent, Allah al-Musta'an, et ils parlent mal, ils traitent mal les savants. Pourquoi? Ils disent, regarde, il y a le mal, mais ils ne parlent pas. Déjà, tu ne connais même pas quelles sont les conditions de l'Amr ibn al-Munkar. Tu connais même pas Maratib al-Amr al-Ma'ruf al-Munkar. Tu connais même pas Sifat wa Simat al-Amr al-Amir al-Ma'ruf al-Munkar. Tu connais même pas le Farq bin al-Nasiha. Tu connais même pas Bain al-Amr al-Ma'ruf al-Munkar. Tu connais même pas est-ce qu'il y a une différence quand on fait à une personne, quand on fait un groupe, quand on fait un gouverneur. Il y a beaucoup de choses qui rentrent de ça. C'est pas le fait qu'il y a un mal, donc il faut changer. Et nous, on a l'impression que si le savant, ou si une personne, on va passer, Nabil, il voit un mal, il parle pas, regarde. Il est d'accord avec ce mal. Non. Des fois, on doit penser à tout ça avant de parler. Tu dois savoir, et c'est pour ça, il y a une parole de Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, la yajouz. Bal ya'fam, sahibu idha lam yakun mutayaqqinan, anna hadha al-amir bil ma'ruf, wa an-nahy al-munkar, idha lam yakun, aw lam yukhaffif al-dharar, aw bil-aks tadarrara, aw tarattaba ala hadha al-amr bil ma'ruf, wa an-nahy al-munkar, mafsada a'zam, qad ya'fam. ولو اجتهد ولو ظن انه ولو كان مبني على ظن. Donc c'est pour ça, dans ce sujet, il faut avoir une certitude que le fait que si tu ordonnes le bien et t'interdis le mal, tu auras une certitude que, donc la première, il faut avoir une certitude, et deuxième, de passer le premier mal à un autre mal, soit équivalent, les savants sont divergés, ou un mal moins pire, ou comme on l'a dit, annuler ou supprimer ce mal. Et qui parmi nous maîtrise ces quatre degrés d'ordonner le bien et interdire le mal. N'est-ce pas, Amir? Et wallahi, on se trompe beaucoup concernant ce sujet. Et c'est pour ça que je l'ai choisi et j'ai préféré de parler sur les conditions parce que tout le monde connaît le sujet. N'importe qui, même un converti, un débutant, tu dis que ça c'est un bien, il va dire c'est bien d'ordonner le bien. Et même, et ça c'est un mal. Ah non, c'est bien d'interdire le mal. Tout le monde le connaît. Soit le jahil, soit le moutadi, soit pas le brim, soit le mouchtahid, soit l'alim, soit le faqih, soit le mufti, soit le qari. Tout le monde il connaît ça. Mais est-ce que tous ces niveaux que je viens de citer, est-ce que tous ces gens, ces niveaux, ils connaissent les conditions, les degrés, les cas, et qui? Est-ce qu'il est obligatoire? Est-ce qu'il est préférable? Il y a beaucoup de choses. Et c'est pour ça, je préfère, c'est pour ça que j'ai préféré, et j'ai préféré que cette assise, ça traite que ces sujets. Que ce sujet comme ça, on aura une vue générale sur ce sujet. Et on ne doit pas parler dès on voit. Non. Prends ton temps, renseigne-toi. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Et après, on peut aller plus loin que ça. Peut-être dans le Mesala, il y a un filet. Peut-être une divergence dans le sujet. Et Cheikh Salah al-Cheikh, dans le Shahad al-Akhir al-Rashid, ils le disent, est-ce qu'on doit blâmer une personne à partir du moment où on sait que c'est un mal? Ou on sait que c'est pas bien de le faire? Ils disent, les savants, ils disent, il peut avoir une divergence sur le sujet. Peut-être c'est mon école. Peut-être c'est mon avis personnel. Peut-être parce que je suis un talib ilm, je prédomine cet avis, et etc. Et après, c'est pour ça que on va parler sur le sujet, on va laisser la semaine prochaine, concernant l'expression « la inkara fi masail khilaf ». Est-ce que, parce qu'il n'y a pas du khilaf, il ne faut pas ordonner le bien et interdire le mal? Parce que des fois, on tombe dans le contraire. Soit on dit « ah non, 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 il faut interdire le bien et ordonner le bien et interdire le mal » sans connaître une divergence, et des fois c'est le contraire. Une personne fait, il délaisse un bien, ou il commet un interdit, il dit « ah non, il y a un khilaf sur ça ». Et les ulama, ils disent, sur cette expression, on va la détailler plus tard, inshallah, ils disent, le khilaf et la divergence, il y a deux degrés de khilaf. Ça, il faut le savoir. Deux degrés. Ils disent, il y a un khilaf, ah oui, il y a une divergence, elle est très forte. Très forte. C'est un niveau très élevé. C'est-à-dire, les deux, ils ont leur adéli, leur école, leur savoir. Le khilaf, il est ah oui. Là, on peut dire, la inkara fi masal khilaf. Par exemple, le fait de lire Sourate al-Fatiha derrière l'imam. Est-ce que dans Salat al-Jahriya et Salat al-Sirriya, al-Wajiba, al-Imam ou al-Ma'moum ou al-Munfarid, là, les ulama disent ça, c'est un khilaf qawi. Et Cheikh Salah al-Cheikh, il le cite. Ils disent, par exemple, ce sujet, il a donné des exemples. Ça, c'est un khilaf qawi. Je ne peux pas blâmer celui qui délaisse al-Fatiha. Et un deuxième khilaf qui est faible. Des fois, il y a des sujets. Il existe la divergence, mais la divergence elle est faible. Comme par exemple, le Cheikh Salah al-Cheikh, il donne un exemple, le fait ou le jugement de la bière. Oui ou pas? Vous entendez des fois des échos, la bière y est juste. Pourquoi? Parce que le Hanafiya, ils disent, ah, on connaît le Hanafiya que ça. Parce que certains savants de Hanafiya, ils disent que y est juste, concernant le Nabil, l'équivalent de la bière, elle est permise. Malgré que, là, il y a 12, enfin, c'est sûr et certain. Mais, il se base sur certaines choses, mais la divergence, elle est faible. Parce que si on compte le nombre de savants, le nombre des échos, le nombre des avis qui interdisent par rapport à ceux qui autorisent, incomparable. Mais certains, ils vont dire non, parce qu'il y a khilaf. Ou la cigarette. Non, nous, le Hanafiya, parce que le Hanafiya qui autorise. Oui, je sais, même si on l'autorise. Et les autres, Imam Shafi'i, Imam Malik, Imam Ahmed, et les autres savants, et les autres amis, et les autres échos, les autres hadiths, comment on fait? Donc, il faut faire attention à ce point. Mais on aura de l'occasion à traiter ce sujet la prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala. Donc il dit, on a écouté les 4 degrés de Inkar al-Munkar. Ensuite, le Cheikh, il donne un exemple. Donc on va lire les exemples que le Cheikh Al-Uthaym Al-Rahimahullah a cités. مثال ذلك إذا أراد أن يأمر شخصا بفعل إحسان إذا لا نقطع إجزام si il veut ordonner une personne de faire un bien لكن يستلزم فعل هذا الإنسان أن لا يصلي مع الجماعة donc il demande une personne à faire un bien mais en même temps ça lui demande de délaisser salat al-jama'a Donc il veut lui demander, il ordonne à faire un bien. Mais en même temps, il va délaisser la prière en groupe. Cheikh, il dit, فَهَذَا لَا يَجُوزَ الْأَمْرُ بِهَذَا الْمَعْرُوفِ. Je ne peux pas lui dire, on donne un exemple, je ne peux pas lui dire, nous on est en train de faire salat al-jama'a, je dis non, akhi, lève-toi, fais ratiba, ou fais tahiyat al-masjid. On sait que c'est bien de faire tahiyat al-masjid, on sait bien que c'est bien de faire al-nafila, mais en même temps, ça lui oblige de délaisser salat al-jama'a en groupe, la prière en groupe. Donc, Shaykh al-Uthaymeen dit, huna la yajouz al-amr bihadha al-ma'ruf. Donc, dans ce cas, on ne peut pas lui dire, fais ce bien. Pourquoi? Parce qu'en contrepartie, en même temps, ça lui force de délaisser la prière en groupe. لأنه يؤدي ترك واجب من أجل فعل مستحب. Et ça, c'est une qaïda عظيمة جدا. Wallahi, qaïda عظيمة جدا. Il dit, c'est pour ça, pour cela, il dit, parce que, يؤدي إلى ترك واجب. Parce que, faire ou pratiquer ce bien, il demande de délaisser une obligation. Il décide de délaisser une obligation. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit pratiquer un ma'ruf, un bien, et on entend délaisser une obligation? Non. Jamais on pratique une sunna, en général, une sunna pour délaisser une obligation. Et ça, peut-être, les savants, ils me disent, oui, c'est quoi l'argument? Des fois, vous connaissez l'histoire. Ibrahim nous rappelle l'histoire que la personne qui faisait nafila, il faisait la prière, et sa mère, elle est rentrée, elle a demandé de... Elle a appelé la personne, ça c'est le... J'ai oublié le hadith exact, mais l'histoire elle est connue, et c'est un hadith sur ça. À l'époque, avant... C'est pas à l'époque du prophète, c'est vraiment avant. Il disait qu'une personne faisait la prière. Il faisait sa prière. Sa mère, elle est rentrée, elle a appelé. Il a refusé. Il faisait sa prière, nafil, yatanafal, yatatawa. Il faisait sa prière. Pas obligatoire. Hein. Sa mère, elle a appelé. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à faire sa prière. Pourquoi? Parce qu'il a dit, moi je suis dans la prière. Je ne peux pas couper une prière et répondre à ma mère. Qu'est-ce qu'elle a fait, sa mère? Elle a fait des douas, des invocations contre lui. Qu'est-ce qu'elle a dit? Dans le sens... Voilà. Sa mère, elle a fait douas pour lui... Hein? Un dua contre lui qu'il rencontre une prostituée. A'adhan Allah. Elle a fait ça. Vous imaginez qu'est-ce qui s'est passé? Allah Ta'ala, il a exaucé son invocation. Pourquoi? Faire. Hein? En plus, la personne, comme il a dit, c'est vrai, on aura l'occasion de citer l'origine du hadith. La personne qui faisait la prière, elle était pieux. Alhamdulillah, il faisait sa prière. C'est bien de faire la prière, nafila, oui ou pas? Mais regardez ce qu'il a fait. Il a pratiqué un bien, donc on sait que c'est sunnah de faire nafila, oui ou pas? Ta'at al-walidain, sunnah al-wajib, wajib. Donc là, c'est quoi le prioritaire? Délaisser une sunna pour pratiquer l'obligation qui doit répondre à sa mère, ou le contraire, où il doit continuer sa prière en faisant la sunna pour délaisser une obligation. Ce qu'on doit faire dans ce cas, on doit couper la prière. On doit couper la prière. Pourquoi? Parce que toi, ce que tu fais, c'est une sunna. C'est une sunna. Et obéir à tes parents, c'est une obligation. Tu dois délaisser une sunna pour pratiquer une obligation, et c'est pas le contraire. Et ça, parmi nous, beaucoup parmi nous négligent ce point. Ils disent non, il suffit sunna, il faut la continuer. Et c'est pour ça que je vous dis un exemple. Ça, pour vous-même, ça concerne certaines personnes. Des fois, tahiyat al-masjid. Des fois, on rentre, on la fait devant le mur. Oui ou pas? Le imam, il ouvre la porte. Al-Muqim Adhan. Aqam al-Salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Celui qui fait la prière, il a entendu ou pas? Il a entendu, certainement. Des fois, on remarque, et on l'a fait à l'époque, c'est on continue à faire tahiyat al-Masjid. Je continue. Laisse les gens attendre. Non, là. Tu dois arrêter ta prière parce que si on regarde le maslaha et le mafsada, les dégâts, toi tu as pensé à ton bien personnel, mais est-ce que tu as pensé au bien des autres qui attendent? Et en plus que ça, tu me dis non, moi il faut, j'ai comme ça prière. Et je veux donner même un hadith. Ida uqimati salatu fala salata illa al-maktouba. Si on a entendu iqamat al-salah, aucune prière est valide ou... Comment on peut traduire? Aucune prière, elle peut se faire dans ce temps à la base, à partir du moment où on a entendu l'iqama. C'est pour ça qu'on doit savoir al-maslah al-mufsada, ce qu'on fait des fois. C'est pas parce qu'une sunnah je dois continuer. Ou parce que des fois, même moi, je faisais la prière, des fois, on trouve une personne, le fait de coller les pieds. Oui ou pas, Ibrahim? Ça, il faut l'avouer, c'est une réalité. Soit pour moi, soit pour les autres. Des fois, on essaie de coller les pieds. C'est vrai, c'est une sunna. Mais des fois, on colle trop. Ça, c'est une réalité. Il faut le savoir, on le faisait. On colle trop les pieds. Des fois, tu vas faire mal à ton frère qui est à côté de toi. Pour toi, c'est une sunna. Mais c'est lui, parce qu'il ne connaît pas que c'est une sunna. Que le prophète a recommandé fortement. Mais n'oublie pas que celui qui est à côté de toi, tu vas lui faire du mal. Donc, c'est quoi le prioritaire? Faire une sunna qui va engendrer un mal pour ton frère ou le contraire? Vu que c'est une sunna, tu peux la délaisser. Parce que n'oublie pas que faire le mal à ton frère, c'est sunna ou c'est interdit? C'est interdit, donc il faut comparer. Est-ce qu'une sunna avec une chose interdite? C'est mieux de délaisser ça pour ne pas commettre une chose interdite et vice-versa. C'est mieux de délaisser une sunna pour pratiquer ou pour faire une chose qui est obligatoire. Donc c'est pour ça, ça il faut savoir que, concernant les sunnahs, c'est vrai, c'est recommandé. Tu me dis, mais dans ce cas, on va plus coller les pieds. Non, notre devoir de apprendre les gens que c'est une sunnah. C'est une sunnah recommandée. Et le prophète, même pas une prière obligatoire en groupe, il a pas dit, istawu atadilu, hadu bayna al-manakibi wal-aqdam. C'est quoi ça? C'est comment on traduit? Coller les chevilles et les pieds. Chaque prière en groupe, il le faisait. Mais si une personne ne connaît pas, ou il n'a pas l'habitude, c'est mieux de délaisser cette sunna pour le bien. Mais ça ne veut pas dire que je dois le délaisser définitivement. C'est-à-dire, jamais je ferai ça. Chacun connaît qui est à côté de lui. Moi, des fois, si je suis à côté d'un frère qui connaît ça, je colle. Mais vraiment, je colle. Je pratique la sunna. Et comme ça, j'ai la récompense et je fais la prière comme le prophète a fait. Et j'ai la récompense du sunnah. Mais si à côté de moi, une personne, il ne sait pas, ou j'estime qu'il ne sait pas, ou par exemple, j'estime que je vais le gêner, l'essentiel, je colle. L'essentiel, que je ne laisse pas un vide. Oui ou pas, Ibrahim? L'essentiel, qu'on ne laisse pas un vide, et des fois, on remarque le vide, mashallah. Des fois aussi de l'autre côté, qui est à côté de toi, il ne veut pas te coller les pieds. Il ne veut pas. Allah al-Musta'an. Toi tu l'approches, lui il s'éloigne. Voilà, c'est ça le problème. Parce que des fois on dit, ouais, c'est les jeunes, oui. Mais de l'autre côté aussi. On va faire quoi? Même peut-être une personne, il peut rentrer entre les deux. Des fois on voit des gens, il met carrément sa veste entre toi et lui. C'est quoi ça? La prière va faire la veste va faire la prière. Un des gens qui a dit, saou, soufou fakoum. Saou, i'tadilou. Ça, c'est, il n'y a pas une prière obligatoire, il n'a pas répété. Donc, si on veut vraiment, et même, les savants, si je vous dis, on va parler sur le jour, on va parler sur la jurisprudence, ça, c'est souvent, on va parler sur dans la matière de fiqh, ça, c'est normal. Vous vous rendez compte que, parmi les causes que les musulmans en général, ils sont en retard, parce que c'est vrai, on dit qu'on est mutakhallifine, on est en retard, etc. Oui ou pas, Ibrahim? On le dit ou on ne le dit pas? Wallahi, بعض العلماء قال من أسباب تخلف الأمة عدم تسوية الصفوف في صلاة الجماعة. Le fait de ne pas aligner les ronds, aligner, je dis. Le problème, on a les désilestiques, on a fait tout et le rond, tu trouves à ouj. On a fait tout. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'en premier temps, on n'avait pas des traces. On a fait des traces. Il s'est dit, on a trouvé que la même chose. On a fait des élastiques, tu trouves la même chose. On a même des tapis, comment on dit, quadrillés, tout. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et ça, vous le dites que parmi les causes que les musulmans, ils sont à leur état actuel, ça, vous le savoir. Ils disent le fait que les rues ne sont pas, les rues ne sont pas alignées. À votre avis, pourquoi? Et il dit, mais c'est quoi le rapport de Tahalluf? Il me dit que les gens, ils ont fait technologie, ils ont étudié, ils ont fait, toi, tu me parles de ce sauveur. Wallahi, hada min hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. قال لا تسوون أو لا يخالفن الله في بقلوبكم أو في قلوبكم ويبا il a dit allez-vous où Allah Ta'ala il va vous éloigner ou contredire vos cœurs. Et c'est vrai. Notre problème, c'est pas la quantité. On est 2 milliards, alhamdulillah, 1 milliard 2, 1 milliard 5. Le problème, c'est pas la quantité, mais les cœurs, Allah Ta'ala, tu trouves à côté de lui. Dans le même site, on n'est pas d'accord. Sur les choses qu'on doit être d'accord, il n'y a pas de divergence. Il n'y a pas de divergence. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu ne sais pas pourquoi. Tu trouves un groupe par là, le groupe de l'autre côté, la prière. Même dans ça, tu trouves une qui par là, les gens devant, tu ne comprends rien. Lire le tahassub. Et pourquoi on ne pratique pas d'une sunnah de Rasulallah? La tusawuna bayna sufufikum ou la yukhalifanna Allah bayna qulubikum. Parmi les causes qui peut diverger les cœurs, c'est le fait que les rangs ne sont pas alignés. Parce que là, il va dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est malade, ce type, il part sur aligner les rangs, la technologie, les musulmans. Oui, parce que c'est le halil du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et wallahi, si on aligne les rangs comme il vient être faux, les cœurs, ils vont s'aligner. Il faut savoir, les cœurs, ils vont s'aligner. Et si les cœurs, ils sont s'alignés, on a tout gagné. On a gagné la prière, on a gagné les ronds. Tout se mettra à sa place. Tout se mettra à sa place. Et alhamdoulilah. Donc, on doit faire attention. Donc, un autre exemple, il dit وَكَذَلِكَ فِي الْمُنْكَرْ لَوْ كَانَ إِذَا نَهَا عَنْ هَذَا الْمُنْكَرْ تَحَوَّلَ الْفَاعِلُ لَهُ إِلَى فِعْلِ مُنْكَرٍ أَعْظَمْ فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالِ لَا يَجُوزُ عَنْ أَنْ يَنْهَا عَنْ هَذَا الْمُنْكَرِ دَفْعًا لِأَعْلَى الْمَفْسَدَتَيْنِ بِأَدْنَاهُمَا. Et ça, c'est une قاعدة. Une autre règle. Il faut savoir que al-ma'ruf darajat. Al-ma'ruf. Le bien, c'est des degrés. Il reste combien pour la prière? Rappelez-moi 2000, 3000 avant la prière, comme ça je... Al-ma'ruf, le bien, il faut savoir, il n'est pas limité au bien, au terme bien, mais c'est des degrés. C'est des degrés. Et aussi le mal, c'est des degrés. Ah, la question qui se pose, si je me trouve dans cette situation, ça va engendrer deux biens, qu'est-ce que je dois faire? Par exemple, une personne, il fait déjà, il jeûne par exemple 3 jours par mois. Mais je sais, j'ai une certitude, etc., que le fait d'ordonner le bien, c'est-à-dire, je vais parler, c'est bien de jeûner de plus lundi, jeudi, par exemple. Donc, remarquez. Donc, si je lui demande de jeûner de plus les 2 jours, par exemple, lundi, jeudi, j'ai un bien, le premier bien, au premier degré de ce bien, que déjà à la base, il jeûne déjà les 3 jours par mois. C'est une sunna. Si je l'ordonne, je vais passer un autre bien, mais plus élevé. Donc, c'est pour ça que j'ai dit c'est des degrés. Plus élevé. Pourquoi? Parce que il va jeûner les 3 jours, en plus, le jeudi et le lundi. Donc là, j'ai deux biens. Qu'est-ce que je dois faire? J'ordonne ce bien ou pas? J'ordonne ce bien ou pas? Oui, parce que je sais que je vais passer un autre bien plus élevé que le premier. Donc ça, c'est bien d'ordonner ce bien ou interdire le mal. Le contraire aussi. Déjà, il y a un mal. Mais si j'interdis un mal, ou j'ordonne un bien, je vais passer un autre mal, mais plus grave. plus élevé que le premier. Qu'est-ce que je dois faire? J'ordonne ou j'ordonne pas? Non. Donc, c'est quoi le résultat? Ils disent, si on a deux biens, un il est plus élevé que le premier, c'est mieux d'avancer le bien le plus haut, le plus prioritaire. Et le contraire. Si je sais que ça va engendrer, c'est-à-dire il y a deux mal, mais un il est plus grave que le premier, c'est pas la peine d'ordonner le bien ou interdire. Pourquoi? Parce que ça va engendrer un mal plus grave. Est-ce que c'est clair? Il donne un exemple. Et après, dans un exemple, ويدل لهذا قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فإن سب آلهة المشركين لا شك أنه مطلوب. Donc le fait d'insulter les idoles des mécréants, il est recommandé. لكن لما كان يترتب عليه أمر محظور أعظم من المصلحة التي تكون بسب آلهة المشركين وهو سبهم لله تعالى عدوا بغير علم نهى الله عن سب آلهة المشركين في هذه الحال. Le verset est clair. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. Le verset de sourate Al-An'am numéro 108. Il nous interdit d'insulter آلهة المشركين. C'est normal ça? On peut insulter les idoles des mouchriquins ou pas? À la page, oui. Parce que c'est des... Comme il a dit, فَإِنَّ سَبَّ آلِهَةَ الْمُشْرِكِينَ لَا شَكَّ أَنَّهُ أَمْرٌ مَحْظُورٌ لَكِنْ لَمَّا كَانَ يَتَرَتَّبُ عَلِهِ أَمْرٌ مَحْظُورٌ أَعْظَمْ مِنَ الْمَصْلَحَ الَّتِي تَكُونُ بِسَبِّ الْآلِهَةِ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ سَبُّهُمْ لِلَّهِ تَعَالَى عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Le fait que d'insulter leur idole, les idoles des mécréants. Par la suite, en contrepartie, qu'est-ce qu'ils vont faire? D'accord, toi tu as insulté son idole, ou son, ce qu'il adore. Lui, qu'est-ce qu'il va insulter? Non, si c'est un autre idole, c'est pas le problème ça. Ah, il va... Parce que lui, il adore un idole. Oui ou pas? Donc lui, dans sa tête, il va penser c'est la même chose. T'insultes son idole, ben il va insulter ton idole parce que toi t'adores Allah Ta'ala. Donc lui il va insulter Allah. C'est pour ça dans le verset, il est interdit d'insulter les idoles des mécréants. Par crainte qu'ils vont insulter notre Seigneur. Rabbuna Jalla wa Ala. Ils vont remarquer pourquoi il est interdit. Pourquoi? Parce que les dégâts qui vont engendrer, le fait que tu vas ordonner ce bien interdit de mal, il va engendrer des dégâts et le fait d'insulter. Si on arrive à un point qu'il va insulter notre Seigneur, c'est mieux de ne pas parler que parler ou changer de chemin. Est-ce que c'est clair? Et ça, il s'est fait preuve du verset. Walaw wajadna. Il donne un autre exemple. Walaw wajadna rajulan yashrubu al-khamr. Ici, on voit une personne boit de l'alcool. وشرب الخمر منكر. Et on sait que boire de l'alcool, c'est interdit. Une chose pas bien et mal. فلو نهيناه عن شربه لذهب يسرق أموال الناس ويستحل أعراضهم. Et on sait que si on l'interdit de boire de l'alcool, on sait que il va voler les biens des gens, il va toucher أعراض الناس, l'honneur des gens. Donc c'est quoi le plus grave? Boire de l'alcool ou voler les gens et traiter leur honneur? Certainement, c'est boire de l'alcool, c'est moins pire. Pourquoi? Parce que boire de l'alcool, c'est pour lui. Boire de l'alcool, c'est lui. Mais l'autre mal, c'est quoi? Il va voler l'argent des autres. Il va traiter l'honneur. Il va faire un fitna. Donc c'est quoi le plus grave? Voler les gens et traiter leur honneur ou boire de l'alcool? Bien sûr, les deux sont mal, hein. J'ai pas dit que c'est moins grave ou c'est bien de boire de l'alcool, non. J'ai dit les deux, c'est mal. Mais on doit peser. C'est quoi le plus grave? Est-ce que le laisser à son état actuel, boire de l'alcool, ou voler les gens et traiter l'honneur des gens? Certainement, le premier est le moins grave, donc c'est pour ça on laisse à son état. Même si les deux, ils sont mauvais et c'est pas mal. فَهُنَا لَا نَنْهَاهُ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ. Ça, dans ce cas, même si tu le vois et il boit de l'alcool, tu lui dis rien. Parce qu'il va dire, mais comment on dit rien? Parce que c'est ça. tu dois savoir qu'est-ce que ça va engendrer par la suite. Tu sais que c'est, on sait bien que boire l'alcool c'est pas bien. Mais ce qu'on doit faire, on prend en considération que le fait que si on l'interdit l'alcool, il va passer un mal plus grave et plus dangereux que le premier. Dans ce cas, لا ننهاه عن شرب الخمر لأنه يترتب عليه مفسدة أعظم. Et ça, on l'a dit, les maratib, inkar, al-munkar. Donc ça, on a terminé la cinquième condition. La sixième condition, et on termine inshallah, est aussi أن يكون هذا الأمر أو الناهي قائما بما يأمر به منتهيا عما ينهى عنه. Donc ça, la sixième condition d'ordonner le bien, interdire le mal, et celui qui interdit le mal ou ordonne le bien, il doit à la base lui-même déjà être pratique. C'est-à-dire il pratique ce bien, donc il peut appeler et ordonner les autres à le pratiquer, et aussi il ne doit pas faire ce interdit avant qu'il interdit les gens à le délaisser. Il donne un exemple. وهذا على رأي بعض العلماء فإن كان غير قائم بذلك فإنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر لأن الله تعالى إلو فرسي لكو قال لبني إسرائيل سورة البقرة الفرسي نمو 44 أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون الفرسي الكلاخ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون فإذا كان هذا الرجل لا يصلي une personne déjà lui il fait pas du tout la prière, il fait pas la prière, فلا يأمر غيره بالصلاة. Donc c'est pas la peine qu'il demande c'est pas la peine qu'il demande les gens à pratiquer la prière parce que déjà lui-même il fait pas la prière. وإن كان يشرب الخمر et c'est lui-même déjà il boit de l'alcool, il ne peut pas dire et ou interdire de boire de l'alcool. فَلَا يَنْهَا غَيْرَهُ عَنْهَا وَلِهَذَا قَالَ الشَّاعِرِ Il y a aussi un vers, un bayt shi'ri, d'un sha'ir, le bayt il est ma'ruf, un kalam al-arab, لَا تَنْهَا عَنْ قُلُوقٍ وَتَأْتِي مِثْلَهُ عَارٌ عَلَيْكَ إِذَا أَتَيْتَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيمٌ فَهُمُ اسْتَدَلُّوا بِالْأَثَرِ وَالنَّظَرِ. Donc, sur le famine, il dit, la sixième condition que celui qui ordonne le bien et interdit le mal, déjà à la base, il doit pratiquer ce bien et aussi il ne commet pas ce péché avant d'appeler les autres. Et il s'est basé, et après il dit, ils se sont basés sur le verset numéro 44 sur le Baqara. Il y a aussi un bayt de l'arabe, même les arabes, ils disent un vers, il dit comment t'abstiens ou t'interdis les gens à ne pas faire un comportement et toi-même tu le pratiques et tu le fais. Donc la tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu. N'interdis pas de pratiquer un mal comportement et toi tu le fais le même. Arun alayka, honte sur toi ou pour toi, idha fa'alta 'azim. C'est-à-dire si t'interdis, c'est-à-dire honte pour toi si t'ordonnes ce bien et t'interdis ce mal. Donc ils disent, à partir de ce verset et ce vers, ils ont tiré la sixième condition. Ils disent, mais la majorité, c'est-à-dire des savants, se sont divergés sur ça, ils sont contre ça, et ils disent que même si tu pratiques pas, c'est-à-dire tu pratiques pas ce bien, tu peux ordonner ce bien. Comme aussi, même si tu délaisses, tu commets un péché, tu peux interdire les autres, peut-être, en faisant ça, peut-être la Ta'ala pourra te guider et un bien pour les autres. Mais à la base, nous, à la base, toujours, on doit être l'exemple. Et la preuve, le Prophète, est-ce que le Prophète, il a ordonné un bien, il n'a pas fait. Ou il a interdit un mal, il n'a pas fait. Hacha. Hacha. Donc, c'est pour ça qu'on est recommandé toujours d'être l'exemple pour soi, avant d'ordonner le bien et interdire le mal. Donc, le temps, il est terminé. Donc, alhamdulillah, donc on a terminé, on a expliqué les six conditions d'ordonner le bien et interdire le mal. Aussi, on a traité, on a expliqué ensemble les quatre degrés d'ordonner le bien et interdire le mal. Et
on a entendu, on a lu ensemble les conditions et leurs degrés, donc d'où et chaque musulman doit les connaître et les maîtriser avant de se précipiter à ordonner le bien et interdire le mal. La semaine prochaine, inshallah ta'ala, on va continuer ce sujet, parce qu'il y a des sujets aussi qui font partie de ce sujet, qui sont très importants. On a dit, on va expliquer le fait de dire, on n'a pas besoin de blâmer les autres à partir du moment où il y a un khilaf, il y a une divergence. En fait, c'est faux de le dire. Il y a un détail à préciser. On va traiter un autre sujet qui concerne la différence entre un nasiha. Les gens disent, est-ce que tu l'as fait le nasiha? Ah, on va voir la définition de nasiha. Et quelle est la différence entre le terme nasiha, le conseil, c'est ça? Le conseil est ordonner le bien et interdire le mal. Il y a trois petites différences entre ces deux sujets. Et aussi, on va parler sur un autre sujet peut-être, si on aura le temps. Quelles sont les caractéristiques, les caractéristiques et les signes ou les choses que doit avoir celui qui ordonne le bien et interdit le mal? C'est pas n'importe qui, c'est-à-dire, en plus des conditions, en plus de ces quatre degrés qu'on a expliqués, on doit connaître aussi trois choses, de celui qui ordonne le bien et interdit le mal. L'ensemble de toutes ces choses pourra nous faciliter d'ordonner le bien et interdire le mal pour nous et pour les autres. Fabarakallahu fikum wa jazakum allahu khair. فنسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضاه ويجعل ذلك في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم.